Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les affaires rattrapent deux macronistes de la première heure. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, chez les juges dans le dossier des mutuelles de Bretagne. Celui du Modem, François Bayrou, chez les policiers sur les possibles emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés. L'équipe américaine n'a plus rien de la Dream Team, équipe américaine de basket battue au Mondial en Chine en quart de finale par les Bleus de Gobert et Batum. Ils sont en demi contre l'Argentine et ils savourent leur exploit. Vous les entendrez. Au sommaire également ce soir, un appel à témoins lancé en France dans l'affaire Epstein. Trois femmes entendues par la police depuis la fin août. Les miraculés du Cuba Libre de Rouen au procès des gérants du bar qui a pris feu il y a 3 ans. Les premières images de l'île d'Abaco aux Bahamas, la plus touchée par Dorian. Notre équipe vient d'arriver. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, Sébastien, on plonge dans le débat sur l'homophobie dans les stades de foot, puisque le temps de la discussion, semble-t-il, est là. Derrière cette polémique, il y a plein de choses qui nous intéressent. Il y a un problème spécifique avec le foot à régler ou pas. Est-ce qu'on s'y prend bien pour le régler? Quand on nous dit les insultes, c'est du folklore, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette affaire, c'est surtout, c'est aussi une histoire de clash entre deux mondes, le monde politique et le monde sportif. Votre avis nous intéresse et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. La première plainte avait été classée sans suite, mais voilà donc Richard Ferrand rattrapé par la justice dans le dossier des mutuelles de Bretagne. Le président de l'Assemblée est entendu depuis ce matin à Lille, où le dossier a été dépaysé. Bonsoir Charlotte Pirenne.
Bonsoir.
Il est entendu par les juges dans le cadre de l'information judiciaire ouverte début 2018 pour prise illégale d'intérêt. L'allocation d'un local appartenant à sa compagne par les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. Charlotte, qu'est-ce qui se joue précisément en ce moment?
De l'issue de cette audition se dessinera clairement la suite de cette affaire, non-lieu ou perspective d'un procès. Pour décider, les juges d'instruction vont devoir statuer sur 2 points. Le premier, sur l'infraction elle-même. Peut-on parler d'une prise illégale d'intérêt? Pour cela, il faut envisager les mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand a été le directeur général pendant 14 ans, comme un groupe à vocation de service public. C'est l'interprétation qu'en fait l'association Anticorps Partie Civile, qui estime que parce qu'elles perçoivent des subventions publiques et assument des missions comme l'ouverture de ce centre de soins dont le local est au cœur de l'affaire, les mutuelles de Bretagne sont bien chargées d'une mission de service public. C'est aussi ce qu'avait envisagé le parquet de Brest avant, néanmoins, de classer l'affaire sans suite, car l'autre nœud juridique, c'est la question de la prescription. 3 ans dans le cas de prise illégale d'intérêt. Or, l'allocation de ce local à la compagne de Richard Ferrand remonte à 2011. Sauf qu'il s'agit d'une infraction dissimulée, argumente encore Anticorps, qui rappelle que les administrateurs des mutuelles de Bretagne ignoraient la situation et que seul un article du Canard enchaîné avait permis la révélation des faits. Article paru en 2017, qui avait alors conduit à l'ouverture d'une enquête et au départ de Richard Ferrand du gouvernement.
Richard Ferrand est chez les juges, merci Charlotte Piret. François Bayrou et Marielle de Sarnez dans les locaux de l'OCLIF à Nanterre, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Comme la nouvelle commissaire européenne Sylvie Goulard hier, le président du Modem et l'eurodéputé sont entendus dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants du parti au Parlement européen. Dossier qui les a tous les trois obligés à quitter le gouvernement en juin 2017. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
En Marche et le Modem convoqué aujourd'hui, c'est un hasard, mais c'est une mauvaise passe, surtout pour la Macronie.
En tout cas, ce n'est pas ce que l'on appelle une rentrée rêvée pour le président de la République. Ces deux convocations devant la justice ternissent forcément l'image de cet entourage d'Emmanuel Macron. Maintenant, il était grand temps, après plus de 2 ans, que soient enfin purgés ces deux dossiers. Donc c'est pour l'instant assez bien vécu au sein de la majorité. Les députés du Modem, comme de La République En Marche, estiment que ce sont deux affaires qui empoisonnent la vie politique macroniste depuis le début. Voilà pourquoi, pour Hervé Berville, comme pour la plupart des élus de la majorité, il est maintenant urgent de savoir si le président, à l'aune de l'acte 2 du quinquennat, va pouvoir à nouveau pleinement s'appuyer sur ces deux piliers de sa campagne de 2017.
Le président Ferrand n'est pas au-dessus ou au-dessous des lois, donc il y va de manière très calme, en sachant ce qu'il y a eu déjà dans ce dossier, c'est-à-dire un classement sans suite, et tout ça suivra son cours.
Vous entendez pas de remous dans la majorité, ni dans le parti allié. Officiellement, beaucoup de sérénité, et pour l'instant, c'est vrai qu'il faut ajouter que les affaires ont tendance à glisser sur Emmanuel Macron. L'affaire Rugy, par exemple, est restée l'affaire Rugy. En fait, les Français, très probablement, attendent beaucoup plus le président sur sur les retraites, sur les urgences, sur l'écologie, bref, sur les vrais dossiers.
Et pendant ce temps, merci Karine Bécard, 9 personnes sont au tribunal pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies à Paris. 8 militants qui dénoncent le vide de sa politique en matière d'écologie et un vidéaste. Le procureur demande ce soir 1 000 euros d'amende, la moitié avec sursis. Ils sont poursuivis comme une 60aine d'autres en France pour vol en réunion. Des décrocheurs qui sont encore passés à l'action pendant le procès à la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.
L'affaire Epstein rebondit en France.
Du nom du milliardaire américain Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison alors qu'il était au cœur d'un scandale d'abus sexuels sur mineurs. Il y a du nouveau ce soir. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
La police lance un appel à témoins.
Oui, il a été diffusé ce matin sur les réseaux sociaux par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Ces appels à témoins sont fréquents quand il s'agit d'affaires qui remontent à plusieurs années et sont susceptibles d'avoir duré dans le temps. Celui-ci fait suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 23 août par le parquet de Paris. Les enquêteurs veulent essayer de déterminer s'il y a dans cette affaire Epstein des victimes françaises ou des personnes étrangères mais qui auraient été victimes en France puisque Jeffrey Epstein avait un logement à Paris dans la très chic avenue Foch. Il venait régulièrement dans la capitale. Pour l'instant, 3 femmes qui se disent victimes ont été entendues dans cette affaire en France. Une association affirme avoir reçu de son côté 10 de témoignages dont certains sont anonymes. Cet appel de la police pourrait donc inciter leurs auteurs à se manifester. Et puis, autre question à laquelle va essayer de répondre cette enquête et cet appel à témoins. Y a-t-il dans ce dossier des Français eux-mêmes auteurs de viols ou d'agressions sexuelles?
Alors, les policiers s'intéressent notamment au rôle joué par l'agent de mannequin français, Jean-Luc Brunel. C'est un proche du financier américain. C'était un proche.
Oui, l'une des 3 personnes qui ont été entendues par les enquêteurs français affirme avoir été droguée puis violée par Jean-Luc Brunel. Des faits qui, toujours selon les dires de cet ancien mannequin, se sont déroulés à Paris dans les années 90. Cette femme n'a pas déposé plainte puisque ces faits sont prescrits. Mais elle a quand même tenu à faire un signalement pour que son témoignage soit pris en compte. Jean-Luc Brunel, qui semble être un homme clé dans cette affaire, a été vu cet été à Paris. Mais depuis, il a totalement disparu.
Merci Ariane Grissel. La justice encore avec la suite du procès du Cuba Libre. C'était en 2016 à Rouen, l'incendie de ce bar où des jeunes gens fêtaient un anniversaire au sous-sol. 14 d'entre eux y ont trouvé la mort. 3 autres ont réussi à remonter et à sortir du local en flammes. Et ils ont raconté aujourd'hui Gauthier, Yanis et Bilal. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
3 rescapés, 3 miraculés même, on dit les pompiers.
Depuis 3 ans, ils revivent la même scène le jour, les mêmes cauchemars la nuit. C'était la fête, le gâteau d'anniversaire et instantanément l'incendie, ce halo de lumière, décrit Gauthier, avec des flammes qui faisaient des cercles. Gauthier a suivi son instinct de campagnard, dit-il. Je savais que la flamme ne brûlait pas si on passait vite dedans et ça a marché. Yanis a vu Gauthier se lancer. Mes jambes ont bougé toutes seules. C'était mon instinct de survie. Bilal, à son tour, va suivre les 2 premiers, mais comme les autres, il va buter sur les marches inégales et brûlantes de l'escalier abrupt du Cuba Libre. À chaque fois que mes mains touchaient le sol, ça faisait « kshhh », vous raconte Bilal. Vous savez, comme le bruit des steaks qu'on jette dans la poêle. Bilal, Yanis, Gauthier racontent aujourd'hui leur sentiment de culpabilité qui les poursuit, celui de n'avoir rien pu faire pour les autres, le copain, la cousine resté tétanisé en bas. Même si personne m'en veut, je sais au fond de moi que j'aurais pu tenter quelque chose, confie Yanis. Il raconte comment depuis 3 ans il tente de chasser ses souvenirs et ses cauchemars, en vain pour l'instant, comme si leur vie était aujourd'hui suspendue à ce statut de miraculé.
Jean-Philippe Degnaud, merci, en direct de Rouen. En bref, encore, la Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d'anxiété après l'amiante. Elle ouvre la voie à l'indemnisation pour tous, pour tous les travailleurs exposés à d'autres substances toxiques. Je vais y arriver. Des lettres de menaces envoyées à Bercy. Celle d'hier contenait même 3 balles de 9 mm avec les mentions pour Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Le ministre de l'économie a déjà été menacé avant le G7 de Biarritz en août. Sa maison de Saint-Pé-sur-Nivelle allait être pulvérisée, disait la menace. Le ministère a porté plainte.
Il est 19h09. Sébastien, l'équipe de France de basket plus forte que les Américains.
Oui, pour la première fois depuis 1986, un exploit pour les coéquipiers de Rudy Gobert. Cet après-midi, en quart de finale du Mondial en Chine, ils ont battu les États-Unis, triple champion olympique, double champion du monde en titre, avec 10 points d'écart, rien que cela, 89 à 79. Les Bleus sont qualifiés pour les JO de l'an prochain à Tokyo et donc en demi-finale de ce Mondial, deuxième fois après 2014 où ils avaient perdu contre l'Espagne. L'arrière Evan Fournier, l'un des 4 tricolores en NBA, ne veut pas revivre ça. C'était chez nos confrères de Canal+.
Depuis le début de la compète, on dit qu'on est venu pour gagner. En 2014, on a fait une énorme erreur après le match de l'Espagne. où on s'est relâché malheureusement sur un carton et nos rêves se sont écroulés. On ne veut pas faire la même erreur. On est venu ici pour gagner, personne ne croyait en nous, c'est pas grave. Je pense que ce soir on a montré beaucoup de détermination. Quand ils nous sont passés devant, c'était vraiment très dur parce qu'on était court physiquement. Mais voilà, ce soir on a vraiment défendu, on s'est battu comme des chiens et c'est pour ça qu'on a gagné. Pour nous, sur tous les matchs, on n'est pas favoris. Il faut qu'on ait cette mentalité, on est des chiens. Il faut qu'on soit des chiens sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on sera champion du monde.
On verra ça avec les Bleus, avec l'Argentine en demi-finale vendredi. Les quelques 40 supporters tricolores qui ont fait le déplacement en Chine espèrent une ambiance aussi chouette, en tout cas, que celle de cet après-midi. Voici Davy Clermontois, joint par Jérôme Cadet à Pékin.
On était peu de Français, mais cette ambiance a monté. Et puis quand la France a été un petit peu en difficulté, effectivement, le public chinois a basculé pour l'équipe de France. C'est toujours aussi l'histoire du petit poussé face au grand. Les deux dernières minutes, le public était debout et avait pris parti pour l'équipe de France.
Vous avez pu croiser les joueurs après le match ?
On a pu les croiser rapidement, effectivement, ce soir, mais ils sont focus hein, déjà sur la suite. Bien sûr, ils sont heureux, mais ils ne sont pas euphoriques, ils ne comptent pas s'arrêter là.
On verra ça donc vendredi. On résume, demi-finale contre l'Argentine qui a battu la République tchèque 82-70. La demi-finale de la France, ce sera vendredi à partir de 14h à Pékin et l'autre demi opposera l'Australie à l'Espagne.
Sommes-nous tous égaux face au traitement contre le cancer ?
Non, d'après un sondage de l'Institut Curie, près de la moitié des personnes interrogées estiment que le système de santé ne garantira pas un accès équitable aux traitements innovants dans les années à venir. Immunothérapie ou nanomédicaments, par exemple. À Saint-Nazaire, une étude de l'Agence régionale de santé montre une surmortalité liée au cancer. Le tabac et l'alcool sont principalement en cause. Les riverains de la raffinerie Total de Donges, par exemple, se posent des questions. Mais les autorités Anne Patinec promettent des contrôles de la qualité de l'air.
Dans la région nazérienne, les décès avant l'âge de 65 ans sont supérieurs de 28% à la moyenne nationale. Cela grimpe même à 38% chez les hommes et 40% de ces décès prématurés sont dus à des cancers. Le secteur étant très industrialisé, les habitants se posent des questions sur l'impact de la qualité de l'air, comme Monique qui vit près de la raffinerie Total de Donges.
C'est une chose qui m'inquiète. C'est vrai qu'on a l'habitude de respirer pas mal de cochonneries ici. Moi, je suis asthmatique, donc ça pose des problèmes. Les médecins me disent non, c'est contrôlé. Moi, j'y crois.
Des contrôles sont effectivement effectués régulièrement et selon Christophe Henbel, adjoint au chef de service risque à l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, il n'existe pas de risque sanitaire particulier lié aux industries du secteur. Les réseaux de surveillance vont toutefois être renforcés.
Ça va être industrie par industrie qu'il va falloir déterminer les polluants en question et ça peut être aussi en multipliant le nombre de points de surveillance. On va définir des plans de surveillance spécifiques à chacune des entreprises.
Une étude épidémiologique devrait permettre aussi de mesurer la part de pollution atmosphérique dans le déclenchement des maladies, mais cela risque de prendre du temps. En attendant, pour l'Agence régionale de santé, il y a urgence à agir. Dans la région, les habitants fument plus et boivent plus d'alcool que dans le reste de la France. Les actions de prévention et de lutte contre ces addictions vont être renforcées.
Les personnels des hôpitaux dans la rue, notamment à l'appel de la CGT, pas satisfaites des annonces d'Agnès Buzyn après 6 mois de grève aux urgences. Manifestations ou rassemblements à Paris, mais aussi dans plusieurs villes, Bordeaux, Montpellier, Nancy, Dijon ou encore Nantes. Jean-Marie Guillaume est représentant du personnel à l'hôpital nantais Georges Domaison. Il se demande pourquoi les patients ne les rejoignent pas. Il est au micro de Dylan Jaffrelot de France Bleu Loire-Océan.
Pourtant, ils se rendent bien compte que ça se dégrade fortement, puisque quand ils passent des heures et des heures sur un brancard aux urgences, il y a même d'ailleurs des patients qui décèdent sur des brancards aux urgences, parce que les soignants n'ont pas eu le temps de s'en occuper, parce qu'ils sont tellement saturés et débordés, qu'il y a même des patients qui décèdent sur les brancards. Tout ça, c'est l'hôpital entreprise, hein. C'est ça le grand paradoxe, c'est qu'on met la qualité un peu en avant, mais sauf que la vraie qualité, c'est le temps dont on dispose pour s'occuper vraiment des gens. Et ça se réduit de plus en plus. Ça devient vraiment indigne.
Et vous trouverez sur franceinter.fr des portraits et des paroles de soignants. Autre grève, celle de vendredi contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats. La RATP livre ses prévisions de trafic que ce sera très perturbé. 10 lignes de métro fermées et les RER uniquement aux heures de pointe, 6h30, 9h30 et 17h-20h. Les gares seront fermées en dehors de ces horaires. Quel sera le bilan aux Bahamas après le passage de Dorian, l'ouragan qui a fait 50 morts officiellement pour l'instant, mais les autorités s'attendent à un décompte bien plus important. Les secours qui gagnent progressivement les îles les plus touchées au nord de l'archipel décrivent un paysage de désolation, tout comme les envoyés spéciaux de France Inter, Thibault Lefebvre et Gilles Gallinaro, qui viennent d'arriver sur celle d'Abaco.
Du ciel, Abaco semble avoir été brûlé par l'ouragan, avec des troncs d'arbres brisés, sans feuilles, qui recouvrent un sol huileux, mélange de sable et de terre encore humide, malgré le soleil de plomb qui s'abat sur l'île. C'est ensuite le silence qui interpelle. L'île s'est vidée ces derniers jours. Les opérations de rapatriement sont presque terminées et il ne reste que quelques habitants les plus pauvres, essentiellement des Haïtiens, qui errent au milieu des détritus. L'électricité est revenue dans les endroits stratégiques, l'hôpital, le centre de commandement ou le principal supermarché gardé par la police et l'armée. Abaco est désormais occupé par les humanitaires et par les forces de l'ordre bahaméennes qui cherchent encore des corps dans les quartiers les plus reculés. Le soleil, l'humidité, l'amoncellement de déchets et par endroits une odeur de pourriture très prononcée laissent craindre le pire aux autorités. Le bilan officiel est toujours de 50 morts, mais ici personne n'y croit vraiment. Tout le monde a les yeux tournés vers le ciel car la pluie attendue pour les prochains jours pourrait compliquer encore un peu plus les opérations de recherche.
Thibault Lefebvre avec Gilles Glinaro depuis l'île d'Abaco aux Bahamas. C'est l'un des chiffres les plus importants des derniers mois. 86 migrants interceptés pour la seule journée d'hier entre la France et l'Angleterre. 21 autres encore aujourd'hui, des Iraniens, Irakiens, Afghans, Pakistanais ou encore Philippins pour la plupart. Le ton monte entre Pékin et Berlin. Pékin qui a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Chine à propos de la visite du jeune Hongkongais, défenseur de la démocratie, Joshua Wong. Le jeune homme de 22 ans, visage du mouvement des parapluies, a déjà rencontré le chef de la diplomatie allemande et aujourd'hui Ludovic Piétenu, des parlementaires et les milieux d'affaires.
Joshua Wong vient chercher des soutiens pour l'aider à dénoncer ce qu'il qualifie de brutalité policière contre les manifestants hongkongais.
Loss of female.
Beaucoup de manifestants ont été sexuellement harcelés par des policiers au moment de leur arrestation ou au cours de leur détention. C'est pourquoi je continue d'appeler l'Allemagne et les pays européens à condamner les agissements de la police anti-émeute de Hong Kong.
Avant-hier soir, dès son arrivée à Berlin, ce jeune activiste de 22 ans a pu rencontrer le chef de la diplomatie allemande. Cela a beaucoup agacé Pékin qui a parlé d'un spectacle politique. Joshua Wong appelle l'Allemagne à résister à ces critiques.
Les manifestations à Hong Kong ne vont pas s'arrêter de sitôt. La censure politique et les limites à la liberté d'expression n'ont fait que transformer l'ensemble des jeunes générations en des dissidents.
Ce militant pro-démocratie hongkongais explique ne pas avoir choisi Berlin par hasard.
Les Hongkongais se considèrent désormais comme un rempart au régime autoritaire de Pékin. Hong Kong est le nouveau Berlin dans une nouvelle guerre froide.
Au-delà de la comparaison, Joshua Wong sait aussi que l'Allemagne est l'un des principaux partenaires économiques de la Chine, où Angela Merkel était en fin de semaine dernière en visite officielle. La chancelière allemande n'a pas souhaité le rencontrer. Prochaine étape pour ce militant, les États-Unis dans 48 heures.
On termine avec le personnage de clown maléfique Gripsou que les fans de Stephen King connaissent par cœur et qui fait son retour au cinéma aujourd'hui. Deuxième chapitre, adapté de l'un des plus grands succès du maître de l'horreur, le roman Ça, succès de librairie et succès au box-office, 700 millions de dollars de recettes pour le premier volet, c'était en 2017, ce qui en fait le film d'horreur le plus lucratif de l'histoire. Alors cela valait-il une suite pour autant, Corinne Pellissier? Eh bien la réponse est non.
Deux ans après le succès d'un premier volet qui avait réussi le tour de force de nous glacer d'effroi, il ne reste hélas plus grand-chose des effets spéciaux vintage ou du jeu minimaliste du fameux clown Gripsou à la dentition hors norme. Ce serait même tout le contraire. À vouloir faire plus ambitieux, plus long, plus intense, le réalisateur Andy Muschietti signe une suite capillotractée à la mise en scène aussi lourde que répétitive, en dépit d'un casting sur le papier plutôt séduisant. James McAvoy, Jessica Chastain, entre autres, dans les rôles de Billy et Beverly du club des losers, qui s'était fait le serment de revenir à Derry en cas de nouvelle disparition d'enfants.
Si ça est pas mort, si ça revient un jour, on reviendra aussi.
On n'a pas réussi à le battre.
Gripsou. 27 ans plus tard, les voilà donc confrontés à nouveau à l'effrayant Gripsou et à leur plus terrible cauchemar. Mais une fois passé le plaisir de retrouver les personnages de Stephen King à l'âge adulte, la promesse tombe un peu à plat. Trop d'humour, d'hémoglobine et de longueur pour un film décousu et plus du tout aussi effrayant qu'autrefois. Même le clown incarné avec ou sans maquillage par le génial Bill Skarsgård a perdu de sa superbe. La déception est à la hauteur de la durée du film, 2h50 d'ennui, tout le contraire du premier volet.
Ça, adapté de Stephen King, c'est donc en salle aujourd'hui, mais il ne faut pas y aller.
Ben voilà, ça ne vaut pas le coup, donc ça on l'a compris. Merci beaucoup Sébastien Pau, on se retrouve demain. Bonne soirée aussi à vous qui nous écoutez, mais restez avec nous pour la suite du 18-20. C'est le téléphone sonne, voyons d'abord comment on s'habille demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Pierre Rameau, du soleil au sud de la Loire et ce sera nuageux au nord.
Oui, comme d'habitude, on va retrouver ce type de teint demain et vendredi, à savoir un ciel nuageux au nord de la Loire, mais le temps restera sec. Et puis le soleil va briller sans partage au sud de la Loire et dans l'est. À noter le risque de bancs de brouillard au lever du jour dans les plaines du sud-ouest. Ces phénomènes seront vite dissipés. Et puis côté température, la hausse du mercure se confirme. Les minimales au lever du jour seront plus douces que ces derniers jours. Les maximales vont petit à petit passer au-dessus des normales de saison. Vendredi, la barre des 30 degrés sera souvent atteinte.
Et sinon, pour ce week-end?
Eh bien, prévoyez un temps sec.
On n'est que mercredi, cela dit, mais allez-y pour le
week-end.
Oui,
mais là, comme je suis à peu près sûr de moi, on peut en parler.
Allez-y.
Prévoyez donc un temps sec et estival sous un franc soleil. Et puis les températures seront chaudes et souvent proches des 30 degrés l'après-midi.
Allez, merci beaucoup Jean-Pierre Rameau de Météo France.